Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 26.
Guillaume, hey, t'es où, man? On enregistre le show, là.
Ouais, j'arrive. J'avais besoin d'inspiration pour le show de cette semaine, fait que je suis allé à Paris.
Ah, t'as été à Paris? T'as-tu visité le musée de Dali ou le Louvre? Quand j'y étais, j'ai tellement aimé ça, c'est tellement chef d'œuvre. Hey, je pense à ça, tu m'auras pas comme ça, toi. On est. Qu'est-ce qu'on fait là?
Phil, la créativité, c'est comme une fleur. Tu peux pas te tirer dessus pour que ça pousse plus vite. Je vais arriver quand je vais arriver.
Well, faut aussi se concentrer, savoir s'y mettre à un moment donné, man.
Ok, on est parti. Dans cet épisode 26, Aube vous parle de créativité.
Avec un grand C, au sommaire. Une entrevue avec Nicolas, l'artiste Nick, artiste récupérateur.
Capitaine Bio dans La bouchée qui tue, un radiothéâtre signé Philippe Laramé avec toute l'équipe de Aube.
Monsieur Dubertil cette semaine nous parle des automates de la beauté.
Un reportage sur l'art à la conférence COP21 de Paris.
Et une présentation du livre Fahrenheit 451.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement, par une prise de conscience.
Le mot-clé, inspiration.
Ça commence toujours par une page blanche. L'excitation d'ouvrir son cahier, d'entendre le stylo faire clic. L'angoisse de pas savoir quoi dire. Faut avoir le courage de l'affronter. C'est juste que t'as pas les mots encore. Patience, persévérance. Gribouillage de notes, ratures et flèches qui partent dans tous les sens. Surtout ne pas redire quelque chose que tout le monde a déjà entendu. Dire à ma façon, selon ma perspective. Ça rejoindra peut-être quelqu'un. Relire ses notes. Trouver le thème, l'angle, le schéma narratif. Aller chercher l'inspiration jusqu'à Montmartre, s'il le faut. Lire. Lire les journaux. Lire un magazine, lire un livre. Continuer à chercher. Écouter la musique. Écouter les oiseaux. Écouter les conversations à la table d'à côté. Prendre d'autres notes. Observer. Essayer de ressentir. Raconter, essayer de faire vivre, prendre d'autres notes, relire ses notes. Se commettre. Aucune magie ne transformera les notes qui ont été prises en phrases sans que quelqu'un ne daigne faire l'effort de les agrémenter de déterminants, d'adjectifs et de compléments, d'exemples et de contre-exemples, de parenthèses, d'énumérations, parfois trop longues, et de ponctuation. Restez simple. Les auditeurs sont intelligents. Ils comprendront. Respecter le temps qu'ils t'accordent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de l'expérience? Des connaissances? Des outils pour faire du sens? La maîtrise du médium? D'en connaître les règles et de savoir les transgresser? Un sentiment. Comment décrire l'état d'être choqué, ému, bouleversé, nostalgique et plein d'espoir? Comment décrire ce qu'on ressent devant un tableau? Il n'y a pas de mots. Les mots, c'est des fils sur lesquels faire tenir des idées, comme des billes sur un collier. Tu peux en faire avec du popcorn ou des perles. Un collier est un collier est un collier. Retourner au schéma narratif. Structurer sa pensée. Les choses qui devaient être dites ont-elles été dites? Ce qui était beau a-t-il été montré? Il faut pas que ça soit parfait. Il faut que ça soit honnête. Surtout ne pas constamment écrire entre les lignes. Poèmes et dessins vivent bien mieux dans les marges. Ça permet d'élargir le cadre de la page. Mon but est une charade. Mon premier pense que c'est semblable le son, alors que c'est plutôt lui qui l'est. C'est aussi le titre d'un film français qui se passe à la table à dîner. Mon deuxième évoque le sentiment d'être dans une prison. Lorsqu'on est possédé de ce sentiment, comme société ou comme individu, l'art peut nous aider à nous libérer. Ce n'est cependant pas la seule fonction de l'art. Mon tout est ce que tous disent vouloir être. Il arrive qu'ils n'en soient pas eux-mêmes capables, mais ils espèrent que d'autres pourront peut-être. Et puis ils ferment leur cahier.
Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien? Lui demandèrent les musiciens.
La boussole de l'explorateur. Soyez curieux.
Ayez un regard d'aigle.
Faites-vous une carte.
Ayez une petite idée de ce que vous cherchez.
Abandonnez vos pantoufles.
Allez voir ce qui se passe dans d'autres domaines, / discipline, / technique.
Trop, c'est encore pas assez.
Faites le plein d'idées.
N'ayez pas peur de vous égarer.
Vous trouverez ce que vous ne cherchiez pas.
Brisez les chaînes de la routine.
Utilisez les obstacles pour sortir de l'ornière.
Changez d'optique.
Soyez attentif à toutes sortes d'informations.
Ayez les yeux en face des trous.
Qu'y a-t-il juste sous votre nez?
Sortez votre loupe.
Les grandes choses ont souvent l'air de rien.
Qu'est-ce que cela signifie?
Prenez du recul pour avoir une vue d'ensemble.
Terrassez le dragon.
Recherchez des idées dans les endroits que vous évitiez.
Souvenez-vous de là où vous étiez.
Et pêchez vos propres idées.
Marquez votre nouveau territoire.
Et notez vos idées.
Lors de mon passage au projet Écosphère, j'ai fait la rencontre de Nicolas Desormeaux, alias l'artiste Nick, artisan récupérateur.
L'upcycling, c'est l'action de récupérer des matières dont on n'a plus usage et de leur donner une valeur ou une utilité supérieure. Moi, je fais des microphones avec des vieux téléphones, OK? Le recyclage prendrait ces téléphones-là, les déchiqueterait pour faire du plastique, pour refaire des plats Tupperware, on va dire. Moi, le upcycling, ce que je fais, c'est que je prends le téléphone dans son état que tu connais, le téléphone, je l'ouvre, je passe un nouveau fil dedans et je le convertis en microphone. Fait qu'il n'y a aucun changement physique à l'objet. Tu fais juste prendre un objet qui ne sert plus, puis je le convertis en objet utilitaire pour monsieur et madame tout le monde, ben, du moins pour les musiciens, tu sais. Un microphone ça, en spectacle, c'est toujours cool. Ça sonne super vintage, cacane, puis c'est utilitaire. Ça a une valeur ajoutée, je te dirais. La prochaine étape, quand les gens vont parler d'upcycling, monsieur, madame, tout le monde va parler d'upcycling, moi, je vais déjà être en train de parler de décroissance. Parce que la meilleure façon de ne pas de recycler, c'est de ne pas consommer. Mais en même temps, si je parlais de décroissance maintenant, le monde ferait comme, hey, voyons donc, on peut pas arrêter de consommer. On commande notre confort, puis bon. Fait que, tu sais, de continuer, d'y aller progressivement, puis à se rendre compte qu'on peut avoir des choses rouillées, puis que ça fonctionne très bien, bien, moi, je pense que c'est une étape.
Un deuxième exemple maintenant, on voit ici présentement à ta table que tu as des horloges qui ont été faites en différents matériaux.
Oui, bien en fait, c'est des matériaux que la plupart ont été trouvés ou bien dans les ruelles ou qui m'ont été donnés, sachant que j'étais artisan récupérateur. On pense à ma lame de scie rouillée, qui est un clin d'œil au fait que je suis menuisier. Tu vois vraiment qu'elle a été abandonnée à plat, parce qu'un côté est toute propre. Puis l'autre côté est vraiment tout rouillé. Fait que moi, j'ai installé des aiguilles mécanistes. Tu vois, ça te fait une aiguille, une horloge vraiment, je te dirais, contemporaine, puis un peu glauque parce que c'est rouillé, puis ça a l'air méchant des fois.
Est-ce que tu préfères le côté rouillé ou le côté...
Je préfère le côté rouillé, même si des fois, je les nettoie parce que, esthétiquement parlant, mais j'aime ça quand c'est rouillé parce que ça illustre le temps. Chose que tu peux pas faire avec un objet récent, il est neuf, il sort de la boîte, il sent propre. Tandis que là, lui, tu vois le temps. Parce que la plupart de ces objets-là, c'est des objets qui sont datés de 60 et moins. Pour une simple raison, c'est qu'ils sont démontables. Chose que maintenant, ton maudit iPhone, il est fait, il est soudé, il est fermé, tu peux rien faire avec, puis c'est de l'obsolescence programmée. Tandis que dans ce temps-là, la plupart de ces objets-là sont, comme je te dis, c'est des vis plates, je peux les jouer dedans, je passe un fil électrique, je me fais une nouvelle lampe que dans un objet qui n'a pas rapport, mon robinet qui fait de la lumière. Je veux dire, il fallait juste que je puisse avoir l'espace pour passer un fil électrique. Une fois que c'est fait, moi j'ai une lampe dans ma tête, tant, putain, je ris de toi, tu sais. Mais sinon, c'était une poubelle pour moi, pour lui, tu sais. Les deux, on était surpris de constater que ce qu'on faisait était super similaire. Lui, il faisait beaucoup d'insectes, des bagues en steampunk, justement. Puis quand il a pris connaissance de mon travail, avec les radiographies, les côtés bruts des objets, il a fait comme « Ah, j'avoue, ça peut avoir... » Moi, je connaissais pas en tout le milieu jusqu'à temps que je le rencontre lui en entrevue. Moi, je me oriente vers les conférences. Ce que je crée, c'est... oui, c'est des œuvres d'art, mais c'est aussi du matériel didactique pour donner des conférences.
Pour en savoir plus, visitez l'artistnik.com et upcycling.ca.
Confrontés au changement climatique, les hommes politiques de la planète se sont réunis en décembre 2015 afin d'adopter un accord pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 21e rencontre du genre, la COP21 de Paris était qualifiée de rencontre de la dernière chance. Le même qualificatif qui était assigné à la COP15 de Copenhague en 2009. Rien ne me laissait penser que cette fois, à la 21e tentative, nous réussirions à faire changer les choses. C'était jusqu'à ce que mon sel vibre et que mon Twitter me partage les images de la place de la République, recouverte de souliers de tous ceux à qui on avait interdit de manifester. C'est là que ça m'a frappé. Parmi toutes ces explications importantes et ces solutions innovantes, ce qui manquait, c'était des symboles auxquels se rattacher.
Aujourd'hui, je suis ici à la COP21 et j'ai réalisé cette sculpture qui a été sélectionnée par le secrétariat général des Nations Unies. J'ai toujours comme idée, en fait, de faire des œuvres qui sont des symboles forts d'union et de paix et de fraternité entre les peuples. Cette sphère humaine, elle montre que le monde est un village global et qu'on est tous interdépendants les uns des autres.
Jean-Sébastien Roux est un des rares artistes qui est invité à l'espace Génération Climat à la COP21. J'en ai profité pour discuter avec lui de l'importance de l'art et de la créativité pour la mobilisation à venir.
D'abord, on va parler de l'art et de la sculpture, mais l'art, c'est un formidable vecteur de compréhension entre les peuples. Ça permet de créer des symboles pour lesquels il n'existe pas forcément des mots. Quand on s'adresse au monde, il faut utiliser l'art. On n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'art. Langue officielle en fait de l'ONU, on a le français, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le russe, l'arabe, mais c'est pas suffisant. J'ai une brésilienne qui est venue, qui a posé, elle avait une grande affiche par rapport à ce qui s'est passé au Brésil, il y a une catastrophe aussi importante que Fukushima. Elle voyait en fait dans cette œuvre finalement quelque chose qui lui permettait de se raccorder. Chacun ici arrive avec des expériences individuelles, avec des expériences propres dans chacun des pays, et ce que j'ai essayé modestement, mais c'est de réunir ça. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de fonctionner. Alors, c'est une sphère qui fait 55 cm de diamètre avec que des hommes et des femmes qui sont nus et qui sont tous liés les uns aux autres. Ça montre que notre planète est devenue un village et qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Et il y a une pyramide en dessous, donc il y a cette sphère qui est en équilibre sur la pyramide. Cette pyramide, elle symbolise le génie humain tant scientifique que spirituel. Mon idée, c'est que l'humanité est en équilibre, réunir ce monde et retrouver l'unité, l'unité dans la diversité.
Que ce soit à la place de la République, dans les conférences ou dans les images que vous partagez sur Facebook, il faudra être créatif. En conclusion, je laisse la parole à Jean-Sébastien, qui n'aurait pas pu mieux résumer ma pensée alors que je quitte Paris.
Là, les attentats se sont déroulés il n'y a pas si longtemps que ça, et s'il y a un message à faire passer, c'est aussi que les gens se mettent aux pratiques artistiques. C'est-à-dire qu'il faut des artistes, mais il faut aussi des gens qui deviennent artistes, qui deviennent créateurs de leur monde. Parce que fondamentalement, l'humain est fait pour créer.
En différé de Paris, c'était un reportage de Guillaume Lang. La palette de l'artiste. Prenez votre projet et faites-en quelque chose. Quel schéma pouvez-vous modifier? Comment pouvez-vous introduire un changement dans la façon dont vous pensez à votre projet?
Adapter.
Dans quels différents contextes pouvez-vous placer votre projet? Un contexte historique? Futuriste? À quel contexte inhabituel, géographique ou politique pourrait-il appartenir?
Imaginer.
Quelle question commence par « et si? » Pouvez-vous rattacher votre projet? Jusqu'où pouvez-vous aller? Jusqu'à quel degré de surréalisme?
Inverser.
Regardez votre projet d'envers. À quoi ressemble-t-il la tête en bas?
Ou
recto verso?
Relier.
Que pouvez-vous associer à votre projet? Comment s'insère-t-il dans le reste de vos connaissances?
Comparer.
Associez une métaphore à votre projet. Présente-t-il des similitudes avec la musique, la médecine, la guerre, la cuisine, le jardinage, les voyages, la drague?
éliminer.
Quelles règles pouvez-vous remettre en cause? Certaines choses sont-elles obsolètes? Tabou? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire?
Délirer.
Moquez-vous de votre projet. Cessez de vous auto-censurer. Soyez carrément fêlé, extravagant. Quelle blague en rapport avec votre projet pouvez-vous inventer?
Et laissez mûrir.
Parmi les idées sur lesquelles vous travaillez actuellement, quelles sont celles qui valent la peine que vous fassiez une pause? Aujourd'hui, on ne brûle pas les livres. Ou plutôt, on ne les brûle plus. Il arrive qu'on les interdise, et encore. Rares sont les pays occidentaux où une censure officielle continue de s'exercer sur les œuvres de l'esprit. Aujourd'hui, lorsqu'un livre gêne, on lance des tueurs contre son auteur. On met sa tête à prix, comme Salman Rushdie, coupable d'avoir écrit des versets sataniques. Ou l'on porte plainte contre l'éditeur dans l'espoir d'obtenir que le livre ne soit plus en librairie. Les articles du nouveau Code pénal français autorisent n'importe quelle ligue de vertu à se lancer dans ce genre de procédure. Ou, dans l'éventualité qu'un film considéré comme offensant, les soi-disant offensés font pression sur les pouvoirs publics pour que celui-ci soit retiré de l'affiche. Cette pression pouvant aller dans les cas les plus extrêmes jusqu'à la mise à feu d'une salle de cinéma, par exemple, lors de la diffusion de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Mais le jour où un service organisé comme celui des pompiers incendiaires de Ray Bradbury dans Fahrenheit 451 sera chargé de la destruction systématique des livres au nom du caractère subversif de toute démarche créatrice paraît relever d'un futur bien lointain, voire parfaitement improbable. Est-ce dire que Fahrenheit 451 fait partie de ces visions d'avenir qui, parce qu'elles n'ont pas été confirmées par l'histoire, se trouvent frappées d'obsolescence? La réponse est évidemment non. D'abord, lorsque le roman de Ray Bradbury paraît en feuilleton en 1953, il révèle de la littérature d'actualité. Entendre ici, engagé, beaucoup plus que de la science-fiction. Il projette dans le futur, en la radicalisant et en la grossissant de façon à lui donner une valeur de cri d'alarme. Dès 1947 aux États-Unis, des commissions d'enquête étaient en place, aidées par des dénonciateurs pour débusquer l'ennemi intérieur, que ce soit des communistes, des sympathisants, des libéraux jugés trop libéraux, et ce, dans tous les secteurs d'activité, aussi bien gouvernemental et administratif, mais aussi au sein de la presse, de l'éducation et de l'industrie et du loisir. Pour s'en tenir au domaine culturel qui touchait Bradbury, nombre d'artistes, acteurs, scénaristes, réalisateurs de films, d'écrivains, d'hommes de science et des professeurs furent privés de travail, de liberté, mis à l'index ou encore conduits à s'exiler. On n'a qu'à penser à Charlie Chaplin allant s'installer en Suisse en 1952. Fahrenheit 451 n'est donc pas plus dépassé que ne le serait 1984 de George Orwell. Ce livre a été écrit pour que l'univers terrifiant qui y est imaginé ne devienne jamais une réalité. En d'autres termes, l'histoire du pompier Montag ne fait pas seulement une partie de l'histoire, elle a contribué, sinon à la faire, du moins à la détourner de certaines de ses tentations les plus dangereuses, et y contribue encore. Il est même devenu de plus en plus pertinent au fil des ans, jusqu'à conférer à la fiction qui en est porteuse le statut d'une de ces fables intemporelles où l'histoire peut venir régulièrement se mirer, sans risquer de graves distorsions. Mais pour le reste, il y a question de guerre larvée entre grandes puissances, de course aux armements, de peur du nucléaire, de la coupure de l'homme d'avec ses racines naturelles, de la violence comme exutoire au mal de vivre, de banlieues anonymes, de délinquance, des liens problématiques entre progrès et bonheur. Il y a aussi et surtout question de l'impérialisme des médias, du grand décervelage auquel procède la publicité, les jeux, les feuilletons, les informations télévisées. On ne brûle pas encore les livres, mais on les étouffe sous le silence. La censure aujourd'hui est vomie par tout le monde. Et en effet, ce ne sont pas les livres d'adversaires, ce ne sont pas les idées séditieuses que l'on condamne au bûcher de l'oubli, ce sont tous les livres et toutes les idées. Et pourquoi les condamne-t-on? Pour la raison la plus simple, parce qu'ils n'attirent pas assez de public, parce qu'ils n'entraînent pas assez de publicité, parce qu'ils ne rapportent pas assez d'argent. La dictature de l'audimat, c'est la dictature de l'argent. C'est l'argent contre la culture. On pouvait croire naïvement que le service public avait une vocation culturelle, éducative, formatrice, quelque chose, peut-être qui ressemblerait à une mission. Nous nous trompions très fort. Le service public s'aligne sur la vulgarité générale. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Fahrenheit 451 est devenu un classique et la science-fiction n'est plus un OLNI, un objet littéraire non identifié.
Car, comme le dit d'ailleurs Bradbury, il y a plus d'une façon de brûler un livre. L'une d'elles, peut-être la plus radicale, étant de rendre les gens incapables de lire par atrophie de tout intérêt pour la chose littéraire, paresse mentale ou simple désinformation.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Regardez-moi cette beauté transparaître, tandis que l'œil d'un esthète s'empile au devant du mien pour en détruire l'initiale splendeur. J'ai pensé depuis mon enfance que l'art ne devait jamais devenir l'esclave de ces hommes bêta. Dans leur col de velours assagi par leurs livres et leurs règles. L'art est sauvage. Devenant grand, je les ai trouvés fort sympathiques dans leur béatitude bienveillante, à la vue de tout ce que l'humain peut considérer comme artistique. Puis, à côté d'eux, les suivant fièrement, engourdis dans leurs plumes soyeuses, je trouvais les mondains. Ils récupéraient avec assiduité leurs phrases pour en faire des miroirs. Ne les connaissez-vous donc pas, ces gens de bon augure? On les trouve dans les musées où sont exposées des toiles et des statues comme des pièces de viande à la vue d'un boucher. De grandes personnes qui font marcher leur monocle, tonitruants et mondains, à la recherche d'un peu d'éclat provenant de la beauté cristallisée des œuvres des maîtres. Car l'art en soi n'appartient que rarement aux artistes et aux véritables amants des muses. Dès que l'objet voit naître en son sein le germe terrible d'une mélodie surhumaine, le faible s'en empare pour se faire transfigurer ne serait-ce qu'un instant. De la bienveillance du mécène, souvent, l'art passe au gargarisme incessant des automates de la beauté, dont le moteur devient cette flamme sublimée de l'éternel en ce monde. Je soupire à l'instant en vous parlant de cela, car le monde est rempli à moitié d'automates. L'un détruira la beauté pour y chercher dans ses morceaux une poudre de félicité. L'autre possédera l'âme même des artistes pour en tirer les lumières. Et enfin, nombreux sont ceux qui, plutôt que de laisser à l'art ses ailes, chercheront à l'emprisonner pour faire battre leur cœur. L'art ici n'est rien d'autre que l'incarnation du sublime et du beau au creux de la bassesse du monde. Un sourire surhumain lancé sur la surface du globe pour celles et ceux qui sauront l'accueillir simplement. En comprendre l'immense richesse et ne pas l'exploiter pour le garder intact dans les siècles.
Vous êtes sur le point de pénétrer dans un endroit étrange. Ce plan dimensionnel des rêves, des cauchemars et des fantasmes a su nourrir l'humanité depuis ses tout premiers balbutiements, et ce, depuis le début des temps, avant même que le premier rêveur ne puisse, ne serait-ce qu'imaginer un instant, le concept de créativité. En ces lieux, vit et grandit les contes et les légendes, les esprits primordiaux, l'incarnation des divinités de la nature, de la vie et de la mort. C'est aussi en ces lieux que survivent les rêves les plus tordus, les déviations métaphysiques, voire les perversions les plus désincarnées. À vous tous, je dis, bienvenue chez vous. Depuis le début des temps, nous avons compris que nous avions besoin des humains pour exister, et ceux-ci ont besoin de nous pour évoluer. L'imagination est plus importante que l'intelligence, diront certains. Vous tous qui êtes ici réunis, comprenez ceci. Votre pouvoir se mesure à l'image des gens qui rêvent de vous chaque nuit. Comme vous l'avez remarqué, plusieurs de vos anciens amis ont disparu à défaut de fidèles pour les prier. Dieux des panthéons celtiques, égyptiens, contes de Grimm, légendes médiévales. En cette veille de la Toussaint, comme à chaque année, le grand portail dimensionnel qui sépare nos deux mondes s'ouvre et nos deux dimensions se rapprochent au point de se côtoyer l'espace de nuit. Vous avez été convoqué en ces lieux afin de renouveler votre pacte envers vos créateurs, c'est-à-dire l'inconscient collectif de l'humanité. Celui-ci jugera si l'entité que vous incarnez est encore digne de la place que vous occupez dans ses rêves, ses cauchemars et dans les longues nuits de création de ses écrivains, poètes et penseurs humains. Attention! Déguisés en entités fantasmagoriques, les technocrates se sont infiltrés parmi nous. Ces individus ont galvaudé et réduit à la parodie la plus perfide, les plus terrifiants et les plus originaux d'entre nous. Si vous les repérez ou si vous retrouvez des indices de leur présence, faites très attention. De grâce, ne les écoutez et prenez garde à leur esprit terre-à-terre, logique, froid et calculateur, car ils pourraient faire douter de leurs propres existences les plus originaux d'entre nous. En vous souhaitant le plus merveilleux des séjours en notre dimension, veillez agréer, sorciers, hobgoblins, Pinocchio de tout acabit et sentiments plus sanglants.
Même si ce n'est pas votre métier, nous vous ferons sentir votre importance. Vous savez, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Ross and Witchcraft, le monde est un concept et votre concept sera le nôtre.
Il ne faut jamais oublier qu'un client n'a pas d'idée. Et c'est pour ça qu'il vient nous voir à l'agence de publicité. Créatif, c'est pas un boulot si facile. C'est aussi pour ça qu'on est si bien payé. Pour nous faire taire. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas seulement pour l'argent que j'ai choisi ce métier.
Ah les gars,
toujours avec votre style. Humour, glamour.
Voilà, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. C'est ici, à cet instant, que tout se joue. Ce ne sont pas les créatifs qui l'ont guidé. Derrière chaque pub de merde, il y a une belle idée foutue à la poubelle. Juste parce que tout le monde, moi compris, se fait dans la culotte.
Excusez-moi.
On le vend à qui? Le yaourt, putain.
À la ménagère.
Et la ménagère, c'est quoi? Non, mais attendez, il faut sortir, les gars. La ménagère, c'est une bonne femme fatiguée. Elle est dans son hyper de province, il y a ses gosses qui gueulent dans le caddie, elle a les mains pleines de merde, elle est crevée, il y a tout un tas de problèmes, il y a son mari qui picole, et elle n'a pas du tout envie qu'on vienne lui prendre la tête avec des références au 12e degré, là, personne ne connaît, je suis désolé. Alors avant de penser à vos quatre copains sur Paris que vous allez faire marrer, dont je fais partie d'ailleurs, si, ça me fait rigoler vos conneries de temps en temps. Eh ben avant ça, vous feriez bien de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise? Eh ben ouais, voilà, c'est tout. C'est ça la question.
Hé, hey, on devrait déjà être en tournage, là. Et vos conneries? Putain, on est fini, là. Mon père m'a donné ce plan social direct, hein. Enfin, toi, t'en as rien à foutre, hein. De toute façon, tu trouveras toujours du boulot, c'est ça? Mais bougez-vous le cul pour les autres, au moins, je sais pas, moi. Hein? Je te parle même pas de moi. De toute façon, je sais très bien que vous me méprisez, tu m'aimes pas, hein. Je suis qu'un petit commercial de merde, c'est ça? Mais pense au petit salaire, là, les petits postes, c'est eux qui trinqueront, hein? Jacqueline, elle n'arrêtait pas avec son môme handicapé, 45 ans, tu connais pas trouver du boulot? On peut toujours courir. Et Momo, là, qui tous les soirs, quoi, vos merdes, là, votre coco, vos magazines de cul, on peut toujours courir aussi. Mais soyez humains, merde!
Forcément, ça lui fait tout drôle, à lui, de réaliser qu'il va bientôt se retrouver à la rue.
Je vous en supplie.
Jean-François Marolles a été programmé pour une existence sans rue. Il a accepté d'être insulté et humilié pendant 15 ans par ses employeurs et ses clients pour pouvoir emprunter de l'argent à la Société Générale afin d'acquérir en trois pièces à Levallois-Perret.
Ça va.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu deux extraits tirés du livre « Ne restez pas assis sur le meilleur de vous-même ».
Une entrevue avec Nicolas Desormeaux, alias l'artiste Nick.
Un extrait du film 99 francs.
Et juste avant la pause, vous avez entendu la capsule La marche des fantasmagories.
Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, la créativité en entreprise.
Une entrevue avec Marie-Claude Journaud, artiste.
La culture nous rend meilleurs, un texte de Annie Schneider.
Et le radiothéâtre Le Capitaine Billot. Le rôle de l'art dans nos sociétés est généralement reconnu. Même les dictateurs comprennent le pouvoir de l'art et ils censurent pour chercher à contrôler ce pouvoir. Au 21e siècle, une époque de grands changements, et ce n'est pas peu dire, quelle place pour l'art et la créativité? Comment s'assurer la plus grande liberté de créer? Ici Guillaume Lambe et voici les nouvelles du front. Avec l'apparition du numérique, il devient de plus en plus difficile de tirer un revenu d'une œuvre en particulier. Le contexte social imposé par le modèle du néolibéralisme assimile l'art aux objets de luxe, diminue la capacité de dépenser de la classe moyenne et édifie un culte de la célébrité, soutenu par les médias, qui pousse à une adoration d'idoles plutôt qu'à l'admiration d'œuvres. Quant à lui, l'enseignement de l'art est perçu comme inutile, puisqu'il n'est pas relié aux besoins de main-d'œuvre des grandes entreprises qui veulent une production à la chaîne de produits sans créativité ou presque. Ajoutons à cela les lois sur la propriété intellectuelle, maintenues en place par les grandes corporations de l'industrie de la culture, qui limitent la capacité de créer, sans permettre aux créateurs de tirer des revenus suffisants de leur art. L'Internet et le développement du numérique en général aura d'ailleurs permis de mettre en place des conditions extrêmement favorables à la production et à la diffusion de la créativité humaine, augmentant toujours notre exposition quotidienne aux talents de nos semblables, parfois amateurs certes, mais souvent de grands talents. Alors que les professionnels de l'art ont de moins en moins de possibilités de vivre de leur pratique, mais que de plus en plus d'amateurs créent, quel avenir pour les arts et la culture? Certains disent qu'il faudra compter sur le mécénat. On peut aussi se demander comment l'art pourra jouer son rôle de critique sociale si les artistes doivent leur pratique au 1% de la population qui accapare 40% de tous les revenus de la planète. En 1925, les surréalistes publiaient le manifeste « La Révolution d'abord ». Les surréalistes affirmaient leur besoin de liberté et basaient leur espoir d'une société nouvelle sur des forces neuves qui seraient capables de rompre avec la domination du passé. Au Québec, en 1948, le manifeste Refus global dénonce une société maintenue par son élite dans un climat de peur qui pousse à l'immobilisme. Vers la fin du texte de Bordua et ses collègues, on peut lire « Des gens aimables sourient au peu de succès monétaire de nos expositions collectives. Si nous tenons exposition sur exposition, ce n'est pas dans l'espoir naïf de faire fortune. C'est que nous ressentons violemment l'urgent besoin de l'union. » Ainsi se termine le manifeste du Refus global. Sans repos ni halte, sans crainte des longues échéances, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec les nouvelles du front.
Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi pesanter un mois et de là, jetez-moi au chat, qu'il refuse ma rate et mon foie, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur, que je reste encore avec vous. Sur vos épaules et vos genoux, que je sois, puisqu'il faut qu'on existe, le chat du café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là, et n'hésitez pas, brisez-moi les pattes et le cou, et puis mangez-moi, à même le chat. Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste.
Dans une thématique sur les arts et la créativité, pourquoi chercher 14 heures à midi lorsque tu côtoies régulièrement des artistes inspirants? J'ai posé quelques questions à Marie-Claude Journeau, collaboratrice pour la revue Aube de la première heure, sur sa démarche artistique.
Tout simplement, ma mère prenait des cours de peinture à l'huile et j'étais extrêmement fascinée par sa palette de couleurs. Je trouvais ça beau. Moi, je rêvais d'être une artiste ou d'être une médecin sans frontières. Et puis, ça fait en sorte que je dessinais beaucoup, beaucoup. Et que j'ai été sollicitée très jeune à illustrer le petit journal de la paroisse. Les gens avaient besoin d'une affiche et ils demandaient Marie. Je gagnais les concours de dessin, les méritas. Donc, j'ai été très jeune valorisée par ça. Et je dirais que parfois, les gens me regardent travailler puis ils disent « Oh, t'as un don de Dieu, t'as un talent. » Non, je crois pas être née avec des mains magiques. J'ai juste simplement beaucoup pratiqué. J'ai fait 3 ans au Vieux-Port de Montréal. Ensuite, je suis pour la Ville de Montréal, qui est ma 7e année. Le portrait est un voyage au travers du monde. Je dirais que c'est même une étude sociologique qu'on rencontre des gens de tous les horizons. Je trouve que c'est super intéressant de voir les gens qui viennent vers moi, de laisser des souvenirs, de répandre mes dessins et mon nom partout dans le monde. C'est vraiment fascinant de rencontrer les gens de partout dans le monde. Je dirais que d'année en année, ma production s'améliore. J'ai développé ma propre technique, mon propre style. Donc, c'est un portrait que j'appelle qui est fait rapidement. Le couloir est fait en 30 minutes parce que je suis au centre-ville, ça va vite. Les gens arrivent de la gare, arrivent de voyage. Les gens passent rapidement au centre-ville. Donc, j'ai l'intelligence de m'adapter au marché. Donc, je fais un produit qui est beau et rapide. Je l'appelle portrait illustratif dans un style actuel, une technique ancienne. Je l'offre sur papier blanc ou papier brun ou papier couleur.
C'est vendeur, en tout cas.
Le premier de la journée, c'est jamais le meilleur. Un coup bien réchauffé, ça va bien. Je dirais que dans le portrait, les clientes très fancy qui font la pose, qui sont très belles et qui ont des maris riches, s'il y a un petit point dans le visage, il faut vraiment prendre la peine de lui demander si c'est un grain de beauté, si on peut le faire. Parce que justement, une dame très fancy et très classe, une fois, j'avais fait son petit point qui était un bouton. Et elle était vraiment pas contente.
Oh là 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 là.
À 18 ans, je faisais des choses très, très classiques. Tu sais, presque à la Michel-Ange. Là, maintenant, j'ai vraiment développé mon style à moi. J'aime travailler à l'huile. Cependant, l'huile, ça sèche pas, ça pue. Donc, je travaille à l'acrylique. Souvent, j'ai un mélange d'acrylique, de pastel, d'aquarelle, d'encre. J'ai comme développé mes propres techniques qui font des rendus que j'aime bien. En peinture, j'ai développé 2-3 styles parce que je me suis toujours promis de ne pas être le type d'artiste qui allait faire la même chose toute sa vie parce que ça m'ennuierait. En illustration, c'est toujours un mélange d'aquarelle, feutre, encre et crayon. Et puis, caricature, c'est une technique aussi feutre et... crayon compressé et pastel. Et le portrait, c'est un bon mélange de feutre, pastel, charcoal et différents papiers. Ça passe toujours de fil en aiguille. Tu fais quelque chose, ça t'apporte à autre chose. Je crois que l'important, c'est d'être productif, actif et vu. Ensuite, ça va de fil en aiguille. C'est pas un parcours qui est facile. Donc, s'il y a une porte qui se ferme ou un obstacle, je l'enjambe plus facilement.
On a vu tes œuvres dans le Huffington?
Oui, Huffington Post.
Tu as aussi illustré la revue Aube à l'époque?
Oui, pendant de nombreuses années.
Qu'est-ce qui est ressorti aussi de cette expérience-là?
Le milieu éditorial est un milieu que j'adore parce que c'est super intéressant, c'est enrichissant, on apprend plein de choses, on s'informe sur plein de choses. Il y a aussi le transfert de connaissances qui peut être devenir un outil pédagogique. J'ai illustré pendant un an à chaque mois une bande dessinée d'histoire pour enseigner d'histoire de grand personnage au Canada. Alors, ça a une portée éducative. J'ai illustré pour la Fondation de la tolérance aussi une bande dessinée. Donc, j'aime que mon travail ait un but, une transmission de connaissances.
Pour en savoir plus sur Marie-Claude Journeau, visitez mcjournaux.com.
Quel est le but de cette idée?
La défense.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qui vaut la peine d'être développé?
L'accusation.
Quels sont les inconvénients de cette idée?
Le calcul des probabilités.
Quelles sont les chances de succès?
Le pire des cas.
Si cela échoue, qu'est-ce qu'on peut récupérer?
Le timing.
Cette idée arrive-t-elle au bon moment?
Le délai.
De combien de temps disposez-vous pour prendre votre décision?
Les affinités.
Quelles sont vos hypothèses de base?
L'actualité.
Ces hypothèses sont-elles toujours valables?
L'aveuglement.
De quelle hypothèse n'êtes-vous même pas conscient?
L'arrogance.
Dans le passé, avez-vous remporté un succès avec des idées semblables? Si c'est le cas, ce succès ne vous empêche-t-il pas de voir les pièges que comporte cette idée?
L'humour.
Que dirait le fou de cette idée?
Et le verdict?
Quelle est votre décision?
C'est bien beau d'être créatif comme individu, mais ça n'a pas d'utilité professionnelle. T'es capable de faire des beaux gribouillis. T'as pondu une brique de 1000 pages qui serait supposée être mieux que d'une. Tu sculpterais comme Robin. Ça t'aidera pas à mieux servir tes lattés dans le centre-ville de Montréal, à ce que je sache.
Salut mon Arnaud. T'as encore d'humeur noire, à ce que je vois? On t'a pas rendu plus positif la semaine passée.
Ouais, pis... Être créatif, là, ça m'aide pas comme travailleur.
Bah, ça aide.
C'est quoi être créatif?
Tu calmes. Être créatif, c'est avoir une faculté d'invention, d'imagination, un pouvoir créateur.
Ok.
Tu vois pas les avantages d'avoir une imagination fertile?
Être différent, là, veut pas dire que t'es utile pour autant, là.
Juste à l'échelle de l'individu, ça fait une différence. C'est une porte pour utiliser et exprimer sa curiosité, son empathie, ses émotions. Tout ce qu'il faut pour s'adapter plus facilement aux aléas de la vie.
Ok. Ça peut être utile, là, encore de la vie de tous les jours. Mais pas nécessairement professionnellement parlant.
Encore là, tu te trompes. L'entreprise de nos jours a beau avoir besoin d'une certaine stabilité pour fonctionner, les solutions novatrices ne se trouvent pas en restant cloîtrées dans sa boîte en carton.
Maintenant que j'y pense, résoudre des problèmes, développer de nouveaux produits ou de nouvelles utilisations à ceux-ci, ou juste rendre certains systèmes efficaces.
Tout ça, ce sont des travailleurs comme toi et moi qui les aideront ou le développeront eux-mêmes en utilisant leur propre créativité.
Ou collective. Je pense que tout comme le travail, la création peut se faire à plusieurs. Hein.
Ouais, et nous avons même avantage à le faire à plusieurs. Plus les horizons sont différents, mieux que c'est.
Donc, l'innovation entrepreneuriale découlerait de la créativité. Ça fait du sens, hein. Mais là, admettons que j'achète l'idée. Comment est-ce que je peux être créatif?
Bon, c'est toute la beauté de la chose. Tout le monde peut l'être. Il existe différentes façons de la stimuler. S'intéresser à différents sujets, sortir de sa zone de confort, faire un brainstorming en équipe. Tu peux l'aider dans tout ce que tu fais. Tes seules limites sont celles que tu t'imposes.
Celle de la légalité, hein.
C'est tout?
Ben là, j'avais juste 3 minutes à combler pour notre épisode sur la créativité.
Je vais prendre du miel puis de la crème dans mon lapin.
Depuis toujours, la culture a créé des liens. Même avant la religion, elle a rallié les humains. Par le bon sens, la sagesse et les traditions, sans oublier les coutumes, le folklore et les dictons. Partout au monde, elle a circulé par les libres paroles prononcées sur tous les fronts, sur tous les tons, sans frontières, aujourd'hui comme hier. Le savoir, la poésie, la musique, ces histoires, d'âge en âge, de mère en fille, de père en fils, se sont propagés, perpétués, retransmis d'un clan, d'une tribu à l'autre, de famille en famille. Ainsi, chaque peuple et chaque groupe ethnique a sa propre musique, sa langue et son univers symbolique, tous respectables, irremplaçables et uniques. Et vous-même, nous-mêmes, devrais-je dire, Français du Nouveau Monde, de langue très minoritaire en Amérique, quoi qu'en disent les cousins d'outre-Atlantique, vous êtes restés très proches de vos sources, car en vérité, la musique qui sort de votre bouche est certes une langue venue du passé, mais tout à fait actualisée, teintée de vos émotions et priorités, largement enrichie des impulsions de la modernité. Vous, Québécois pur laine, chers amis natifs d'ici, vous n'avez rien à envier à la vaste majorité de ce continent immense qui s'est laissé niveler mur à mur par la langue chewing-gum qui domine tous les discours, celui du gigantisme de la grande illusion matérialiste, the American Dream, qui elle-même touche à ses propres limites trop calculatrices et se colore de nouveaux visages et refrains comme le déjà cliché remanié. Yes, we all can do it! Par conséquent, Québécois français, gardez-vous bien d'être nombrilistes, car vous-même êtes des mélanges de promenades, rejetons de réfugiés du vieux monde. Même ici, de longue date, vous-même fut accueilli jadis et soigné grâce aux connaissances de la nature des premiers natifs. Contre le néant, il n'existe qu'un puissant remède aux multiples aspects. C'est la culture dans toute sa splendeur et sa grande diversité. Bons films, rares bonnes émissions de radio comme ici, télé, le théâtre, la peinture, la poésie, les journaux, la littérature, la danse, la musique et la sculpture, les conférences, les cours au cégep, l'éducation permanente, le World Wide Web, name it. Non, il n'y a plus d'excuses faciles face à l'ignorance latente. Chacun désormais peut évoluer à son rythme et ses moyens, trouver sa façon bien à lui de grandir dans la réflexion sur ce que ça signifie d'être créatif, humain et sensible dans le fond. Pour mieux se comprendre et autant se connaître, c'est évident que la culture fait partie des bons moyens, car comme pour la plante agit en engrais organique, elle élève l'esprit en faisant jaillir les fleurs et les fruits de l'imaginaire. Bien au-delà d'un simple délire égocentrique, on s'explique, s'expose, se raconte en gestes, en paroles et en couleurs, comme ici à la radio, libre, oui. Ainsi, on peut se singulariser en lien avec sa tribu, unie mais unique. Profitez de cette liberté, frères et sœurs, impliqués sur de tous les horizons. Je le crois vraiment, la culture aide à mieux aimer la vie et à vaincre toute peur, en nuances, en émotions et en idées partagées. Au-delà de l'économie et de la sécurité, avec le verbe bien tourné, le cœur et les bras grands ouverts, dans toutes les langues, la culture nous rend vraiment meilleurs.
C'était un texte de Annie Schneider du nom de « La culture nous rend meilleurs ». Le cri de guerre du conquérant.
Soyez hardi.
Quelles sont parmi vos qualités celles qui vous permettront de réaliser votre idée?
Faites un plan.
Quelle est votre stratégie pour atteindre votre objectif?
Enflammez-vous.
Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous permettra d'atteindre votre but?
Ayez du cœur au ventre.
Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Quelles seraient les conséquences d'un échec?
Commencez tout de suite.
Quels prétextes peuvent vous empêcher de démarrer?
Exploitez toutes les ressources.
Qui sont les 5 personnes pouvant vous aider à réaliser votre idée?
Aiguisez votre épée.
Quelles compétences pouvez-vous développer pour réaliser votre idée?
Sachez ce que vous vendez.
Quel est le produit du produit de votre idée?
Endurcissez-vous.
Quel genre de critiques vous attendez-vous à recevoir? Comment pouvez-vous les utiliser?
Faites les choses à fond.
Quels obstacles peuvent surgir en cours de route? Comment allez-vous les contourner?
Économisez votre énergie.
À quel moment pouvez-vous éviter de livrer bataille inutilement?
Si vous tombez, relevez-vous.
Jusqu'à quel point êtes-vous persévérant?
Savourez vos victoires et tirez les leçons de vos défaites.
Qu'avez-vous réussi? Qu'avez-vous appris?
Il se nomme Sproutbeck Purpac, fils de Régis Stradmark. Les médias les bombelles surnomment Capitaine Bio. Elle, c'est Chicken Nugget, sa complice de justice. Colonel Kentuck les assiste dans l'ombre de ses précieux conseils. Eux, ce sont Mr. Pete et Mlle Mott, deux infâmes biogénéticiens qui ont mis au point un gène mutagène d'une extrême toxicité. Retrouvons Capitaine Bio dans son modeste appartement, perdu dans ses souvenirs à la recherche d'une cause perdue.
Dis, papa, un jour, dis, je serai comme lui, n'est-ce pas?
Ne t'en fais pas, mon garçon. Ton destin sera aussi brillant que l'étoile filante, quoique parsemée d'embûches. Tu es un être exceptionnel, car pendant ton jeune âge, ta mère et moi t'avons exclusivement nourri d'aliments biodynamiques, ce qui fait de toi un surhomme.
Un jour, je veux être comme lui, dévouer ma vie à pourfendre le vilain. Mais avec tous ces super-héros qui nous protègent des méchants, comment trouver une noble cause à défendre?
Ne t'en fais pas, mon garçon. Le destin te fera signe et tu découvriras toi aussi ta voie.
Capitaine Bio, alors âgé de 7 ans, dut assister à la fête de son meilleur ami et consommer, pour la première fois, de la nourriture impure, ce qui provoqua chez lui une profonde réaction qui le marqua à jamais. Il comprit ce jour-là que son destin était de traquer et de détruire la malbouffe sous toutes ses formes et d'éduquer les jeunes et les vieillards à l'amour de la nourriture saine. Le bruit du téléphone nous ramène dans la réalité de notre héros.
Sproutbeck Purpac, j'écoute.
Bio, c'est Colonel Kentuck à l'appareil.
Kentuck, en voilà une surprise.
Bio, l'heure est grave. Une épidémie de nature indéterminée fait des ravages dans la Technopole. Le commissaire Crockett te met sur l'affaire.
J'arrive tout de suite.
Nugget est sur la route et elle t'attend au bureau de Crockett.
D'accord, j'arrive.
Pendant ce temps, au laboratoire de dinde d'Ustrie, Mr. Pids, assisté de Mlle Mods, met au point une nouvelle forme de vie par manipulation génétique.
Regarde cet agent mystérieux. Il est indestructible par les moyens usuels des désinfections.
As-tu essayé la stérilisation?
J'ai tout essayé. Pasteurisation, congélation, lapidation, crémation. Mais sans cesse, il se métamorphose par mutation spontanée.
Vite! Ferme la cage vitrée!
Oh! Regarde à quelle vitesse il s'empiffre!
Il semble rejeter toute trace de verdure. On dirait même qu'il est allergique aux vitamines.
Voici donc les protéinomanes!
Bio, l'heure est grave.
C'est ce que Kentuck me disait au téléphone.
Plusieurs cas de mutation ont été repérés parmi la population de la Technopole. À intervalles réguliers, des témoins ont rapporté avoir vu des humains ayant des membres d'animaux. Oreilles de bœuf, nez de cochon, pattes de poulet. Il semble que toutes les anomalies répertoriées proviennent d'animaux consommés par le marché de masse.
C'est bel et bien une enquête à la mesure du Capitaine Bio!
À l'entrée de la cité, une affiche annonce. Bienvenue dans la Technopole agroalimentaire.
Fais gaffe, Bio. Ici, c'est l'industrie elle-même qui est au contrôle.
T'en fais pas, Nugget. Commençons notre enquête du côté de l'usine de découpe de porc.
Ici, rien ne se perd, on ne gaspille rien. On recycle tous les déchets de l'industrie agroalimentaire. Et nous transformons le tout en farine animale que nous revendons aux fermiers environnants pour nourrir leurs bêtes. Le cycle est bouclé. Les déchets agroalimentaires sont réduits au stricto minimaliste. C'est très écologique comme méthode.
Tu es ce que tu manges? On prend en quelque sorte les caractéristiques de l'animal que l'on consomme. Dans les légendes anciennes, on croyait que manger le cerveau de l'ennemi permettait d'acquérir ses forces. Avec cette farine de mort, je comprends mieux pourquoi la société est morose à ce point.
Allez, partons! J'en ai assez vu comme ça. Allons manger.
Les restaurants rapides se succèdent dans la Technopole agroalimentaire, mais aucun pour satisfaire nos comparses affamés. Ils arrivent enfin chez Patate Dino, Fast Food Bio. Dans la salle à manger, plusieurs odeurs se juxtaposent, mais aucune pour satisfaire notre héros biodynamique.
Quelle fumée, ça sent bon!
Qu'est-ce qu'il y a au menu, Miss Patate Dino?
Il y a le spécial du chef, selon l'humeur du boucher.
Quoi? Tu veux quand même pas que je mange ce ragoût innommable? Avez-vous un menu végétarien?
Nous avons la salade du steak au bacon bio, sinon la salade de choux.
Quoi? La substance verte fluo qui bouge dans son assiette là-bas? On dirait une salade au gazon noyée dans une vinaigrette maison. Bon, ok, je vais prendre la soupe au marécage.
Dis bio, crois-tu que c'est la farine de mort qui cause les mutations spontanées?
Je crois reconnaître la touche d'un savant fou derrière cette tragédie. Je ne crois pas que la farine de mort seule aurait pu causer ces mutations. Je crois beaucoup plus aux effets dommageables à long terme de ce type d'alimentation. Comme disait Rudolf Steiner, le père de la biodynamie en 1900-quelques, si la vache venait à consommer des protéines, elle deviendrait folle.
Et puis, tout est à votre goût?
C'est infect! Mais c'est bio.
Regarde bio, des Baker Scrap Crackers à saveur originale.
C'est quoi la saveur originale?
Je ne sais pas, mais regarde la liste des ingrédients. Elle prend tout le côté de la boîte.
Regarde, c'est écrit. Nous sommes fiers de notre produit technopolois. Avec une liste d'ingrédients comme ça, ils peuvent peut-être nous renseigner.
Pendant ce temps, dans les locaux de dinde d'Ustrie, Protéinoman a gonflé pour prendre des proportions démesurées. Mr. Pids et Mlle Mod sont actuellement en train de tester les propriétés de deux nouveaux gènes qui causent des mutations spontanées et une accoutumance instantanée à quiconque a le malheur d'y goûter.
Avec l'introduction de ces deux nouveaux gènes dans les Beckett Scrap Crackers, à nous la gloire, la fortune et la conquête du marché international du crackerin.
Et que fais-tu de ces nombreux cas de mutations animales que le média véhicule actuellement?
J'ai placé mes meilleurs éléments dans des positions clés du gouvernement en les faisant passer pour des scientifiques renommés.
Ah, Pizza, tu es mon meilleur.
Pas si vite! J'ai tout entendu!
Oh, peu cher, mais c'est qui ce guignol avec ses colonnes de super-héros?
Ah, ça, ma chère, c'est nul autre que le Capitaine Bio. Qu'aimez-vous ta visite, mon cher?
Je suis venu mettre fin à tes opérations, Mr. Pids. Je t'arrête pour cannibalisme direct ou indirect par espèce interposée. Pour magouilles en tout genre. Pour avoir nourri les animaux avec leur propre chair. Pour avoir enfui des immondices porteuses d'une foule de contaminants dangereux. Pour avoir fait usage de microbes, toxines, d'hormones, d'antibiotiques et de pesticides graves. Pour avoir modifié irrémédiablement les gènes de la race humaine.
Franchement, capitaine, Tu crois que les humains ne sont pas capables de muter par eux-mêmes? D'ailleurs, les humains sont passés de l'état de carnivore à celui de charognard. À quoi bon vouloir les sauver? De toute façon, à quoi te sert de suivre ce régime alimentaire aussi strict que son homologue militaire?
Tu n'as rien compris, Mr. Pids. La nourriture biodynamique est une forme d'agriculture qui est non seulement respectueuse de l'environnement, mais qui respecte les cycles, les saisons et le principe même de la vie.
Tu devrais avoir honte de troubler ainsi la tranquillité d'en rechercher des honnêtes travailleurs. Tu sauras que celui qui contrôle les gènes contrôle les peuples par la pince. Mon but est d'affaiblir cette race humaine que je méprise.
Jamais! Tu n'es qu'un baratineur de beurre de cacahuète!
Pas si vite, Bio! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Jamais tu ne pourras m'arrêter!
Oh là là! La porte se défonce avec fracas, laissant entrer un homme à la peau bleue, trois fois la corpulence d'un culturiste, complètement boosté aux hormones de croissance, laissant derrière lui une traînée de bave et de substances gluantes.
Je te présente les protéinomanes!
Pas besoin de le présenter, car la présence de cette abomination sur cette terre est révolue!
Voilà que se termine la première aventure du Capitaine Bio par l'arrestation de Mr. Pids et de sa collègue Mademoiselle Mott. Les plans machiavéliques de ces derniers ont été démantelés, mais qui sait ce que les alchimistes de la biogénétique pourront inventer dans les prochaines années. Ne manquez pas le prochain épisode du Capitaine Bio, The Return of the Topinambour. D'ici là, mangez des kiwis et faites-vous pousser les dents.
C'est ce qui conclut le 26e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission.
Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Ou nous partager vos dessins, vos chansons, vos poèmes, vos opéras.
Come on, Guillaume. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Guillaume Lande,
Annie Schneider, Jean-Baptiste Gardarin, Arnaud Choquette, Maud Campo, Marie-Claude Journeau, Martin Junior Petit et Aurélie Sudersico.
La chanson thème du Capitaine Bio est une création de Dominique Lagu.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lande.